Ça va? On m'entend?
Oui.
Je suis vraiment très heureux d'être parmi vous, plutôt nous sommes heureux, je mets un petit peu comme ça, nous sommes heureux d'être parmi vous, en famille, en voisins, puisqu'on habite vraiment à un quart d'heure en allant vite comme ce matin, 20 minutes en prenant notre temps d'ici. Alors j'avais prévu un petit PowerPoint comme il se doit, mais apparemment la version que j'ai utilisée n'est pas lisible par le matériel que vous avez. À Paris, on est un petit peu plus à la page pour ce genre de choses, je suis désolé. Je plaisante bien sûr, je plaisante. Mais à l'époque des apôtres, ils n'avaient pas de PowerPoint, ils s'en tiraient très bien, donc je suis sûr que ce sera le cas pour nous également. Le titre du message de ce matin, c'est « Pourquoi Jean-Baptiste a réussi sa vie ?» Pourquoi Jean-Baptiste a réussi sa vie ? Et dès maintenant, je vous invite à trouver dans vos Bibles le texte dans l'Évangile de Jean, chapitre 3, versets 22 à 36. Jean, chapitre 3, versets 22 à 36. Et dans les Bibles que vous avez à disposition, c'est à la page 688. Alors j'ai préparé le message dans une version légèrement différente, la Nouvelle Bible Seconde, donc je vais le lire dans celle-ci, mais lorsque je ferai des références, il est possible qu'un mot ici ou là soit un peu différent, mais je n'ai pas de doute qu'on s'y retrouvera bien. Jean 3, 22 à 36, je lirai le texte dans quelques instants. Mais tous ceux qui suivaient les informations, l'actualité en France en 2009, se souviendront de cette citation « choc » qui venait du publicitaire Jacques Séguéla, pour ceux qui connaissent un petit peu. Il y avait une controverse à l'époque sur le goût du président de l'époque de la République pour les objets de luxe, et Séguéla, qu'on interrogeait à ce sujet, a eu cette phrase lumineuse, parce qu'on parlait de la Rolex du président, il a dit « mais tout le monde a une Rolex. Si à 50 ans on n'a pas une Rolex, on a quand même raté sa vie. » Alors cette phrase est un petit peu tournée en boucle. Séguéla s'est ensuite excusé et il a vendu sa Rolex au profit d'une association caritative, l'une de ses Rolex, je pense, au profit d'une association caritative. Donc ne l'accablons pas trop, il a fait amende honorable. Et puis dans un sens, il a dit tout haut et grossièrement ce que pas mal de gens pensent tout bas et un peu plus subtilement sans doute. C'est-à-dire que pour réussir sa vie, finalement, il faut des signes extérieurs, des signes visibles de réussite. Alors pour certains, ce sont les richesses, mais pas tous. Pour d'autres, ce sont peut-être plutôt les expériences, les relations, la reconnaissance des autres, etc., etc. Et sans doute que tous ici, nous avons ne serait-ce qu'un peu tendance à nous retrouver dans l'une ou l'autre de ces catégories. Dans le texte que nous allons lire ce matin, Jean, l'auteur du quatrième évangile, met le projecteur sur deux personnes, deux hommes, Jean-Baptiste, prophète juif contemporain de Jésus, et qui a parlé de Jésus, et Jésus-Christ lui-même. Et donc je vais lire à partir du verset 22. J'en profite pour signaler, je ne l'ai pas fait au début, que vous avez les salutations de l'église de la rue de Sèvres. J'ai été chargé de les transmettre. Jean 3, 22. Après cela, Jésus, accompagné de ses disciples, se rendit en Judée. Il y séjourna avec eux et il baptisait. C'est-à-dire Jean-Baptiste. Jean aussi baptisait à Énon, près de Salim, parce qu'il y avait là beaucoup d'eau, et l'on s'y rendait pour être baptisé. En effet, Jean n'avait pas encore été mis en prison. Or, une discussion surgit entre les disciples de Jean et un juif au sujet de la purification. Ils vinrent trouver Jean et lui dire « Maître, celui qui était avec toi de l'autre côté du Jourdain et à qui tu as rendu témoignage, le voilà qui baptise, et tous vont vers lui. » Jean répondit « Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Vous-même m'êtes témoin que j'ai dit, moi je ne suis pas le Messie, mais j'ai été envoyé devant lui. Celui qui a la mariée, c'est le marié, mais l'ami du marié, qui se tient là et qui l'entend, éprouve une grande joie à cause de la voix du marié. Ainsi donc, cette joie qui est la mienne est parfaite. Il faut qu'il grandisse et que moi, je diminue. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est de la terre. Et il parle des réalités terrestres. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu, et personne n'accepte son témoignage. Celui qui a accepté son témoignage a certifié que Dieu est vrai. En effet, celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu lui donne l'Esprit sans mesure. Le Père aime le Fils et a tout remis entre ses mains. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie. Mais la colère de Dieu reste au contraire sur lui. Pourquoi est-ce que Jean-Baptiste a réussi sa vie? Je vous propose de nous intéresser en particulier à la manière dont Jean-Baptiste, dans ce texte, se positionne par rapport à Jésus. Et je voudrais donc, par rapport à cela, qu'on se pose cette question. Pourquoi il a réussi sa vie? Je vous soumets deux raisons que nous allons examiner tour à tour. Tout d'abord, Jean-Baptiste a compris qui est Jésus et a cru en lui. Donc Jean-Baptiste a compris qui est Jésus et a cru en lui. Et deuxièmement, Jean-Baptiste a trouvé sa raison d'être dans l'exaltation de Jésus. Et on passera un petit peu plus de temps sur le premier point. Jean-Baptiste a compris qui est Jésus et a cru en lui. Lors du précédent épisode, si on veut, que Jean raconte dans son évangile, on assiste à un entretien entre Jésus et un dignitaire religieux de l'époque, un professeur de religion si on veut, Nicodème. Et cet entretien s'est déroulé à Jérusalem, donc la capitale de la Judée. Et ici, semble-t-il, Jésus va passer du temps avec ses disciples dans les campagnes avoisinantes, toujours en Judée, mais dans un territoire plus rural. C'est pour un petit peu le décor. Et là, Jésus va passer du temps avec ses disciples et il va baptiser des hommes et des femmes qui viennent vers lui. Alors, en fait, au chapitre 4, l'auteur de l'évangile, Jean, précisera que ce sont les disciples de Jésus qui baptisaient, mais en présence de Jésus et sous son autorité. Et quelques années plus tard, le baptême prendra un sens nouveau, plus riche, plus profond, en signe de la mort et de la résurrection de Jésus. Mais le baptême dont il est question, c'était vraisemblablement un baptême semblable à celui que pratiquait Jean-Baptiste, c'est-à-dire il exprimait le désir de se repentir, c'est-à-dire de faire demi-tour et de revenir à une vie fidèle à Jésus, fidèle à Dieu. Toujours est-il que nous nous trouvons tout au début du ministère de Jésus, à un moment où Jean-Baptiste est encore actif, il sera jeté en prison quelques mois plus tard. Donc il s'agit d'une brève période où Jean-Baptiste et Jésus ont exercé leur ministère en parallèle. Or Jean-Baptiste avait déjà déclaré que Jésus était d'une importance infiniment supérieure à lui. À propos de Jésus, il avait déclaré, au chapitre 1, verset 27, « Je ne suis pas digne de délier la lanière de ses sandales. » Alors si c'était aujourd'hui, on dirait sans doute « Je ne lui arrive pas à la cheville. » Un peu le même genre d'image. Donc Jean-Baptiste ne voit pas Jésus comme un rival, il ne voit pas Jésus comme un concurrent, ni même comme un collègue prophète, si on veut. Il l'a décrit dans des termes beaucoup plus forts, comme le Fils de Dieu et l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Autrement dit, celui qui, par sa venue, allait réconcilier Dieu avec l'homme, avec les hommes. Mais pour les disciples de Jean, pour son entourage proche qui suivait Jean-Baptiste donc depuis un moment, eh bien on peut imaginer assez facilement que l'influence de Jésus, qui était grandissante, c'était quelque chose d'un peu déstabilisant. Et au verset 26, on voit leur réaction très humaine. Ils vont voir leur maître Jean-Baptiste et ils lui disent « Rabbi, celui qui était avec toi de l'autre côté du Jourdain et à qui tu as rendu témoignage, eh bien voilà qu'il baptise et que tous viennent à lui. » Alors c'est vrai qu'il n'y a pas de désapprobation explicite dans cette phrase, mais on peut quand même un peu lire entre les lignes et deviner la frustration et la jalousie, voire la jalousie de ses disciples de Jean-Baptiste. « Dis donc, maître, le nouveau là, tu sais, celui dont tu nous as parlé, en termes un peu mystérieux d'ailleurs, il fait comme toi, il baptise et il commence à avoir de plus en plus de gens qui le suivent. Sous-entendu, ça te pose pas problème de voir ton influence menacée ? » Et il faut reconnaître que le monde dans lequel nous vivons, il fonctionne exactement comme cela. Qui a le plus d'influence ? Qui est le meilleur sur tel ou tel créneau de la société ? Qui est le plus grand? Qui est le plus original? Qui est le plus influent? Les disciples de Jean-Baptiste ont trouvé en lui leur prophète, leur maître à penser. C'est lui qui, pour eux, occupe le créneau prophète. Et ils ont du mal à supporter que quelqu'un lui fasse de l'ombre. Et donc, si Jean-Baptiste avait réagi typiquement, il aurait sans doute dit « Vous avez raison les gars, je ne vais quand même pas me laisser marcher dessus. » Mais il va réagir complètement à l'opposé de cela. Et au verset 28, il rappelle à ses disciples qu'il n'y a aucune concurrence entre Jésus et lui. Aucune concurrence. Vous-même m'êtes témoin que j'ai dit « Moi, je ne suis pas le Messie, mais j'ai été envoyé devant lui. » Jean-Baptiste rappelle à ses disciples qu'il n'est pas le Messie, il n'est pas le Sauveur, il est plutôt le témoin du Sauveur, le témoin du Messie. Et justement, en parlant de témoin, Jean-Baptiste va donner une image au verset 29 et il va se présenter comme le témoin de mariage de Jésus. Déjà à l'époque, c'est frappant de voir qu'il y avait cette pratique d'avoir un témoin au mariage. Et il va dire « Celui qui a la mariée, c'est le marié, mais l'ami du marié qui se tient là et qui l'écoute éprouve une grande joie à entendre le marié. Et cette joie qui est la mienne est donc complète. » Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion d'être témoin dans un mariage ou d'avoir eu un témoin à votre mariage. En général, le témoin, c'est un ami proche du marié, parfois son frère. Il est heureux pour le marié. En tout cas, on peut l'espérer. Et il n'y a aucun doute dans son esprit que cette jeune femme qui se marie, ce n'est pas la sienne, elle n'est pas pour lui, mais c'est celle du marié. Et donc son rôle, c'est précisément d'être le témoin d'une union qui n'est pas la sienne et de se réjouir avec les mariés. Ce qui est intéressant, c'est que Jean-Baptiste nous donne ici une image à double dimension. Il y a d'abord un sens très simple et direct de cette image qu'il nous donne. C'est une évidence que le témoin de mariage n'est pas celui qui va partir en voyage de noces avec la mariée. Chacun son rôle ce jour-là. Et par cette image toute simple, Jean-Baptiste illustre bien ce qu'il vient de dire au verset 27. Lorsqu'il a dit « Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. » Que ce qui lui a été donné du ciel. Autrement dit, à chacun de jouer le rôle que Dieu lui a donné. Jean-Baptiste n'a aucune raison de revendiquer pour lui-même le rôle de Jésus parce que ce n'est pas le rôle que Dieu lui a donné. Mais il y a aussi une autre dimension à cette image du témoin que Jean-Baptiste utilise. Parce que cette image du marié et de la mariée, on la retrouve à plusieurs reprises dans l'Ancien Testament. Elle est employée dans divers textes où l'image du marié est utilisée pour représenter Dieu, tandis que la mariée représente le peuple de Dieu. Dans le cadre de l'Ancien Testament, donc, c'était le peuple d'Israël qui était représenté par cette image de la mariée, et Dieu était son époux. Et on peut citer alors deux textes parmi d'autres. Ésaïe 62, verset 4. « On ne te dira plus délaissé, on ne dira plus ta terre dévastation, mais on t'appellera « Mon plaisir est en elle » et on appellera ta terre « l'épousée ». Car le Seigneur prend plaisir en toi et ta terre sera épousée. Voilà un exemple d'une image du mariage, si l'on veut, entre Dieu et son peuple. Ou bien dans le prophète Osée, livre du prophète Osée au chapitre 2, les versets 16 à 18, c'est Dieu lui-même qui parle de son peuple et qui dit, c'est très frappant les termes qu'il utilise, il dit « Eh bien moi je vais la séduire, je la conduirai au désert et je parlerai à son cœur. » En ce jour-là, déclaration du Seigneur, « Tu m'appelleras mon mari. » Jean-Baptiste connaissait très bien l'Ancien Testament et il n'ignorait évidemment pas ces images. Et au moment où ses disciples lui disent que tous vont vers Jésus, c'est une hyperbole, mais beaucoup vont vers Jésus, bien Jean-Baptiste nous rappelle que c'est Jésus qui est le marié. C'est-à-dire, dans la logique de l'Ancien Testament, c'est le Seigneur du peuple. Jean-Baptiste est un prophète issu du peuple, mais Jésus est le Seigneur. Il est le roi sauveur du peuple. Il est le Dieu du peuple. Jean-Baptiste a compris qui est Jésus. Et les versets 31 à 36 de notre texte vont confirmer cela. Il est probable qu'à partir du verset 31, ce n'est plus Jean-Baptiste qui est cité, mais c'est l'auteur de l'évangile, Jean tout court, Jean l'évangéliste, qui commente et approfondit ce que Jean-Baptiste vient de dire. C'est probable. Au verset 31, il établit un contraste entre Jésus et Jean-Baptiste en disant purement et simplement que Jésus vient d'en haut, il vient d'auprès de Dieu. Jean affectionnait ce langage avec des opposés, en haut, en bas, le ciel, la terre. Et c'est ce que Jean a déjà dit tout au début de son évangile, en présentant Jésus comme la parole, le verbe, le logos, celui qui est auprès de Dieu depuis toujours et qui est lui-même Dieu, mystérieusement. Et Jean contraste ainsi Jésus, celui qui vient d'en haut, avec Jean-Baptiste, celui qui est de la terre. Jean-Baptiste est un homme, comme vous et moi, qui a reçu une mission bien précise, la mission de rendre témoignage de Jésus, comme le témoin le jour du mariage. Il n'y a pas de confusion des rôles, il est témoin. Il s'agissait de rendre témoignage de Jésus et de préparer le peuple d'Israël de son époque à entendre et à recevoir son Messie, Jésus. Dans les versets suivants, Jean l'évangéliste ajoute que si Jean-Baptiste a été témoin de Jésus, Jésus, lui, de quoi est-il témoin ? Il est témoin du ciel, nous dit-il. Ce n'est pas un homme qui parle de Dieu simplement, c'est Dieu qui vient en chair. Mystère lumineux de la Trinité, de l'incarnation. C'est Dieu qui vient en chair à la rencontre des hommes et qui se révèle lui-même. C'est ce que Jean veut dire aussi, je crois, lorsqu'il précise qu'en Jésus, Dieu a donné son esprit sans mesure. Dieu avait déjà inspiré des prophètes par son Esprit Saint. D'ailleurs, c'est le cas de Jean-Baptiste. Et dans l'Ancien Testament, on voit que le Saint-Esprit inspire des prophètes qui parlent au nom de Dieu. Mais en Jésus, nous dit Jean, Dieu a donné l'Esprit sans mesure. Autrement dit, Jésus témoigne pleinement et parfaitement de Dieu. Si vous avez Jésus, vous avez Dieu. En Jésus, il y a l'Esprit de Dieu dans sa plénitude. Et Jean ajoute de manière saisissante au verset 32. Et pourtant, personne ne reçoit son témoignage. En Jésus, Dieu s'est révélé aux hommes, et pourtant, globalement, l'homme n'a rien voulu savoir de ce témoignage et de cette révélation. Et l'homme livré à lui-même ne veut rien savoir. L'homme, si Dieu le laissait à son triste sort, ne veut rien savoir de ce témoignage et de cette révélation. Mais le verset 33 montre que par la grâce de Dieu, certains tout de même reçoivent cette révélation. Et recevoir cette révélation, nous dit Jean, revient à certifier que Dieu est vrai. Il faut reconnaître que c'est un passage un peu dense et difficile. Mais ce que Jean veut dire par là, je crois, c'est « si je crois en Jésus, j'ai compris comment Dieu s'est révélé et j'accepte de croire en Dieu tel qu'il s'est révélé. Je reçois le témoignage que Dieu a donné de lui-même. » C'est important de souligner cela. Parce que dans notre société, dans notre civilisation occidentale en général, il est très à la mode de dire que si Dieu existe, à supposer que Dieu existe, il doit être un Dieu qui se révèle de toutes les manières possibles et imaginables. Chacun sa façon de trouver Dieu. Certains le trouveront en lisant la Bible, oui, mais d'autres en lisant le Coran. D'autres en allant s'asseoir dans la position du lotus, dans l'Himalaya, en faisant plein de choses différentes. Chacun va trouver Dieu à sa manière. Et pourtant, Jean nous dit ici que Dieu a donné témoignage de lui-même. Autrement dit, Dieu a décidé comment il allait se révéler. Et ce témoignage, il est incarné dans une personne, son Fils, Jésus-Christ. Autrement dit, et c'est là que le christianisme biblique affirme quelque chose qui va complètement à contre-courant du spirituellement correct qui est véhiculé dans notre société, on ne peut pas connaître Dieu en dehors de son Fils. On ne peut pas connaître Dieu en dehors de son Fils. Et Jean ne mâche pas ses mots en nous disant cela. Verset 35, « Le Père aime le Fils et il a tout remis entre ses mains. » Verset 36, « Celui qui met sa foi dans le Fils a la vie éternelle. Celui qui refuse d'obéir au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » Il faut reconnaître que ce sont des mots difficiles à entendre. Mais pour Jean, Pourquoi il insiste là-dessus? C'est parce que pour lui, l'enjeu est incontournable. Pour connaître le seul vrai Dieu, celui qui s'est révélé à l'humanité, celui qui est notre Créateur, c'est par Jésus qu'on passe. Parce que c'est en Jésus que Dieu s'est révélé. Et ce n'est pas à nous, hommes et femmes, de dire à Dieu qu'il aurait dû se révéler autrement, ou qu'il aurait dû se révéler de plusieurs manières, qu'il aurait dû adapter l'offre à la demande, en quelque sorte. Ce n'est pas à nous de dire cela à Dieu. Dieu a envoyé Jésus pour nous. Et autant on pourrait se dire, mais c'est restrictif, en même temps, il y a une universalité, un accueil extraordinaire dans ce don, parce que Dieu a donné Jésus pour tous, il l'a donné gratuitement, librement, et il invite chacun à le connaître. Et Dieu ne se détourne jamais, Dieu ne rejette jamais celui ou celle qui vient vers lui par la foi, quel qu'il soit. Et si nous répondons à cette invitation, nous disons « Oui Dieu, j'atteste que tu es celui que tu dis être. Tu es un Dieu personnel et tu t'es fait connaître par celui qui est ton vis-à-vis éternel, ton Fils, Jésus-Christ. » Mais à l'inverse, si nous rejetons le témoignage de Jésus, alors nous dit Jean, la colère de Dieu demeure sur nous. Pourquoi ? Eh bien simplement parce que sans bénéficier du plein pardon, de la grâce que Jésus nous offre, nous restons devant Dieu des hommes et des femmes pécheurs, rebelles à sa personne et à sa volonté. Ça, c'est notre tendance naturelle. Revenons à la question du départ. Pourquoi Jean Baptiste a-t-il réussi sa vie ? Eh bien, il l'a réussi d'abord parce qu'il a compris qui est Jésus. Et par conséquent, il a compris que le sens de sa vie ne se trouvait pas dans la promotion de lui-même, mais dans l'exaltation de Jésus. Et ce sera notre second point, qui sera un peu plus bref. Jean-Baptiste a trouvé sa raison d'être dans l'exaltation de Jésus. Il faut savoir qu'à son époque, Jean-Baptiste était en quelque sorte une célébrité. Il est mentionné par plusieurs sources historiques, en dehors même de la Bible, comme un prophète particulièrement influent en Israël à son époque. Et pourtant, quand Jésus arrive, on voit Jean qui commence à s'effacer. Alors, on vient de voir la raison essentielle à cela. Jean-Baptiste a compris qui est Jésus et il sait qu'ils n'ont pas le même rôle et qu'il n'y a pas de commune mesure entre son ministère et celui de Jésus. Et par conséquent, l'influence grandissante de Jésus ne provoque chez lui aucune amertume, aucune déception, aucune honte. Mais au contraire, il exprime sa joie. Verset 29, « Celui qui a la mariée, c'est le marié, mais l'ami du marié qui se tient là et qui l'entend éprouve une grande joie à cause de la voix du marié. » Jean-Baptiste a compris que Jésus est non pas son confrère, son concurrent ou son rival, mais son Seigneur, son Sauveur, son Dieu. Et par conséquent, Jean-Baptiste a compris qu'il n'est pas un concurrent dépassé qui ferait face à une sorte d'échec, mais qu'il est au contraire le plus heureux des hommes, celui qui voit Dieu agir, celui qui est témoin de l'action de Dieu et qui a le privilège d'être utilisé par Dieu pour cela. Et quand il dit au verset 30 « Il faut qu'il grandisse et que moi je diminue », ce n'est pas comme on pourrait le penser par une sorte de modestie forcée. Ou c'est pas non plus parce qu'il se dit « Bon, de toute façon, j'ai aucune chance, il est beaucoup plus doué que moi, il a plus de succès, alors autant ne pas insister. » Non. Jésus dit cela parce qu'il a compris que l'homme est le plus heureux lorsqu'il n'essaye plus d'être Dieu à la place de Dieu. Et je pense que le secret d'une vie réussie, d'un point de vue biblique, c'est exactement ça. C'est comprendre que le but de la vie n'est pas de se mettre soi-même en avant, mais plutôt de mettre Dieu en avant. Si Dieu est bien celui qui nous a créés, si c'est Dieu qui nous a donné notre identité, ça nous a été rappelé déjà ce matin, alors c'est uniquement en relation avec lui que nous trouverons le sens et la réussite de notre vie. Et je voudrais insister sur le fait que comprendre ça, c'est absolument libérateur. C'est libérateur parce que la valeur de notre vie n'est plus fondée sur une sorte de moyenne entre nos réussites et nos échecs. Et parfois on peut se dire que la moyenne n'est pas favorable. Elle n'est plus fondée là-dessus, mais elle est fondée, la réussite de notre vie, sur la simple présence de Dieu, du Créateur, dans notre vie. À partir du moment où nous avons laissé Dieu s'emparer de notre vie, eh bien notre vie devient un témoignage à sa personne et à sa puissance. Et notre plus grand honneur, notre plus grande vocation, c'est d'être des hommes et des femmes qui témoignent de la personne, du caractère et de la puissance de Dieu. Alors si quelqu'un devait nous demander « Et toi alors, qu'est-ce que tu vas faire pour laisser une marque dans ce monde ?» C'est peut-être ce qu'on dit parfois, et qu'on ne devrait pas dire, à nos jeunes, hein, 17, 18 ans, ils passent le bac, ils commencent à s'orienter. « Et alors, qu'est-ce que tu vas faire un peu de ta vie ?» Ou bien peut-être qu'on leur demande, plutôt quand ils ont 28 ans, je ne sais pas. Mais si on pose cette question, « Qu'est-ce que tu vas faire pour laisser une marque dans ce monde ?» Ou bien, peut-être plus tard dans la vie, « Mais qu'est-ce que finalement tu as fait pour laisser une marque dans ce monde ?» Eh bien, je crois que la meilleure et la plus belle et la plus biblique des réponses que nous pourrions donner, c'est celle-ci. Mais ma vie ne m'appartient plus. Je l'ai confiée à celui qui m'a créé et qui m'aime. Je n'ai plus rien à faire pour justifier mon existence parce que celui qui a choisi de me créer m'a aimé. Et lui, le Créateur, il a déclaré ma vie éternellement valable à ses yeux. Que demander de plus ? Que le Créateur lui-même déclare notre vie éternellement valable à ses yeux. Il faut bien comprendre que dire cela, ce n'est pas se retirer du monde, ce n'est pas refuser toute réussite dans un sens plus limité, au sens professionnel, au sens familial, que sais-je. Il ne s'agit pas de nier les belles choses que nous pouvons vivre dans notre vie, et qui font aussi d'ailleurs partie de la création de Dieu. Dieu a créé l'homme créatif. Dieu a créé l'homme entreprenant. Et cela est bon, l'homme et la femme, bien sûr. Il faut bien comprendre donc que dire que notre valeur se trouve en Dieu, ce n'est pas se retirer du monde. Ce n'est pas ne plus se préoccuper de l'action et de l'engagement. Mais au contraire, c'est être libéré pour agir et s'engager. Non plus pour y trouver le sens de sa vie ou sa valeur, mais parce que nous reconnaissons comme les disciples d'un Dieu qui, lui, a agi et agit encore dans ce monde et qui s'est engagé à l'extrême envers nous. Nous avons un Dieu engagé et donc il est naturel, si nous voulons refléter quelque peu sa personne, que nous nous engagions dans divers domaines de la vie. Dieu a estimé ce monde présent, le monde que nous voyons autour de nous, il l'a estimé si important, il l'a tant aimé, nous a déjà dit l'apôtre Jean, qu'il est intervenu en chair et en os dans le monde. Dieu a estimé l'homme si important qu'il a assumé la condition humaine dans la personne de son Fils pour nous sauver. Et plus encore, il a inauguré par la résurrection de Jésus-Christ une nouvelle humanité qui s'inscrit dans l'éternité. L'homme est précieux aux yeux de Dieu. Et pour ceux d'entre nous qui sommes chrétiens, nous devons reconnaître que trop souvent, nous continuons à réfléchir selon les valeurs de ce monde, en cherchant plutôt notre exaltation en nous-mêmes. Alors, souvent, c'est plus subtil que la version Jacques Séguéla, où nous n'aspirons pas forcément à être une star célèbre, quoique peut-être certains y aspirent, je ne sais pas, mais on n'y aspire pas forcément. On n'aspire pas forcément à être un immense modèle de réussite socio-professionnelle. Peut-être que certains n'ont pas des ambitions non plus immenses à ce niveau. Mais nos actes témoignent de ce que souvent, en fait, dans les petites choses, nous consacrons notre plus grande énergie à notre réussite de tous les jours, à réussir ce que nous voulons faire, à notre exaltation personnelle. Et je me demande si Dieu nous invite à méditer l'exemple de Jean-Baptiste. Je pense qu'il le fait. Réussir sa vie, c'est tout simplement laisser toute sa place à Jésus-Christ dans sa vie. Alors je voudrais nous lancer, vous, moi inclus, un défi cette semaine. Réfléchissons. Quelle démarche pourrais-je entreprendre cette semaine qui reflète le fait que le sens de ma vie n'est plus fondé sur ma réussite personnelle, mais sur l'exaltation de Jésus ? Il ne s'agit pas, ça a été déjà rappelé ce matin, il ne s'agit pas de dire qu'on va faire des choses extraordinaires pour mériter quoi que ce soit de la part de Dieu ou pour obtenir quoi que ce soit de la part de Dieu. Mais parce que Dieu m'a déjà tant donné et parce qu'il m'appelle à refléter qui il est, lui, le Dieu qui s'engage, quelle démarche est-ce que je peux entreprendre pour montrer que ce n'est pas en moi-même que je trouve l'exaltation, le sens de ma vie, mais en mon Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Je vous invite à prendre quelques secondes pour y réfléchir, et puis je prierai. Notre Père Céleste, nous te demandons de nous aider à trouver la satisfaction que nous avons tendance à rechercher ailleurs en toi. Nous te demandons de nous aider à méditer à nouveau ta parole, tes promesses, tes actes historiques en notre faveur, ce que tu tiens en réserve pour nous à l'avenir. Aide-nous à méditer cela et à comprendre que il n'y a rien de plus désirable que de connaître que de te connaître, toi, et de vivre en relation personnelle avec toi. Et dans tout ce qui fait notre quotidien, les petites et les grandes choses, aide-nous à rechercher non pas à faire notre propre promotion, mais à faire ta promotion. Aide-nous à refléter ton œuvre dans nos vies. Aide-nous à goûter à cette libération qui consiste à savoir que nous n'avons plus à justifier la valeur de notre vie, parce que toi, tu as déclaré notre vie valable pour toujours à tes yeux. Seigneur, s'il y en a certains parmi nous ce matin et ailleurs, nous savons qu'il y en a beaucoup, qui se privent encore de cette relation intime, personnelle avec toi, je te demande de te faire connaître d'eux, comme tu t'es fait connaître à nous tous. Merci pour Jean-Baptiste qui nous donne cet exemple de fidélité et de pleine satisfaction en la Seigneurie de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, amen.